Chapitre 11e, le tatoué. Les deux hommes se tenaient maintenant en face l'un de l'autre, se regardant avec des yeux pleins de rage. Ils demeurèrent un instant dans cette position, haletants, prêts à sauter l'un sur l'autre comme des chiens qui vont se battre, comme des tigres qui vont se disputer une proie. Puis Martha Numa dit encore une fois « Le tatoué, c'est le tatoué !» Le banquier Krabs se recula d'un pas et se campant fièrement aussi, dans un mouvement plein de gloriole et d'insolence, se tapa sur la poitrine, violemment, et s'écria « Eh bien oui, je suis le tatoué, je suis le tatoué !» Puis après un nouveau silence, pendant lequel les deux hommes semblèrent encore se mesurer et s'apprêtaient à recommencer la bataille, le banquier Krabs, attendant une parole du roi des détectives et voyant que Martha Numa ne se décidait pas à parler, reprit « Tu dois être content maintenant, roi des détectives, d'avoir en présence l'adversaire digne de toi, le tatoué. » Martha Numa ne répondit rien, ne bougea pas, ne laissant rien paraître sur son visage, redevenu pâle et immobile, des sentiments qui l'agitaient. « Ainsi donc, reprit le banquier Krabs, une fois de plus, Martha Numa, tu viens te mêler de mes affaires. Tu veux justifier ton nom de chef des curieux en jetant ton regard, ton fameux regard, qui voit tout, là où il ne fallait pas ?» Martha Numa ne bougea pas. « Encore une fois, tu me gênes. Tu viens entraver mes opérations. Ton terrible coup d'œil est venu plonger dans ma banque, est venu me découvrir, arracher ma nouvelle incarnation et reconnaître sous la peau du gentilhomme Krabs, ton ancien ennemi, le tatoué. Tu as découvert sous le banquier d'aujourd'hui le bagnard d'autrefois. » Le banquier Krabs s'arrêta de parler et regarda Martha Numa qui l'écoutait toujours impassible. Puis il reprit « Tu es fort, très fort. Tu as su, Martha Numa, jusqu'ici, déjouer toutes mes entreprises. Tu as gagné souvent la partie. Mais rends-moi cette justice, si ce terme n'est pas trop ironique quand il s'applique à moi. Accorde-moi que j'étais un adversaire digne de toi. » Martha Numa ne bougea pas. « Pendant de longues années, je t'ai donné bien du mal. Il a fallu tout ton talent, tout ton génie, tout ton courage pour venir à bout de cet homme que tu trouvais sans cesse en face de toi dans toutes les belles affaires, dans tous les crimes magnifiques. Cet homme qui est le tatoué, dont jamais, toi ni personne, vous ne connaîtrez le nom véritable. » Alors il eut un rire rageur et reprit « Certes, je le reconnais, tu m'as vaincu. Tu as déjoué mes entreprises. Tu m'as arrêté. Grâce à toi, j'ai été jeté au pied des tribunaux. Mais j'ai nargué les magistrats. J'ai raillé ton code. Je me suis moqué des sentences qu'on m'appliquait, parce que les condamnations ne pouvaient m'atteindre, parce que ce fameux glaive de la loi jamais ne touchera mon cou. » Martha Numa ne bougea pas. « Souviens-toi, Martha Numa, reprit de Krabs, j'étais en prison, j'en suis sorti, j'étais au bagne, j'en suis revenu, j'étais condamné à mort et je suis bien vivant. Malgré toi, malgré toute la justice que tu sers si grandement, aujourd'hui encore, je suis libre, je suis riche, je suis heureux. » Il se tut encore. Puis, voyant que Martha Numa restait toujours immobile et l'écoutait sans répondre, comme s'il ne comprenait pas ses paroles, élevant la voix, il reprit « Ce n'est pas par vaine gloriole. Ce n'est pas simplement pour me vanter que je te dis tout cela, Martha Numa. C'est pour te montrer que si en apparence tu gagnes la partie, c'est en somme moi qui profite de la victoire. Tout ce que tu fais demeure vain, et toutes tes combinaisons, tous tes stratagèmes qui ont pu, j'en conviens, m'amener devant les tribunaux, n'ont pas produit l'effet que tu attendais, puisque je suis libre, et que je me ris de toutes les peines qu'on peut m'infliger. » Martha Numa demeura impassible. Il n'est pas de prison assez fermée, de muraille assez haute, il n'est pas de bagne assez lointain, que le tatoué n'en puisse échapper, n'en puisse revenir. La preuve, la voilà. « Je suis là. » Martha Numa demeura impassible. « Ainsi donc, tu cours sans savoir où tu vas. Tu marches pour retrouver une piste qui n'existe pas. Tu voudrais découvrir enfin le mystère devant lequel ton ingéniosité, ta subtilité sont sans ressources, sur lequel ta fameuse loupe, qui sait si bien trouver la petite bête, n'arrive pas à découvrir le fil d'Ariane de ce labyrinthe. Pendant que toi, Martha Numa, comme un acteur habile, tu te déguises en égoutier, en sacristain, en vieux professeur de province et en autre personnage ridicule. Tu ne te doutais pas que jour par jour et pas à pas, je te suivais. Alors que tu me cherchais, c'est moi qui te gardais, c'est moi qui te pistais. Et quand tu croyais me surprendre, c'est moi qui te tenais. Martin Humain demeurait toujours impassible. « Je reconnais, reprit de Krapps, que tu m'as rendu l'appareil et que comme moi j'ai pu échapper à tes gardes-chiourmes, tu as su, toi, sortir de mes mains. Je t'en félicite et t'adresse mes plus sincères compliments d'amateur et de bon connaisseur. Cet hommage rendu à ta virtuosité, à ton endurance, je dois te dire d'homme à homme que cette fois, le policier a fini de jouer son rôle. Deux fois, tu as glissé de façon miraculeuse entre mes doigts. Tu es venu aujourd'hui te jeter dans mes serres. Tant pis pour toi. Adieu. » Monsieur de Krapps fit de la main un geste soulignant cet adieu ironiquement lancé, puis il se dirigea vers la porte. Martin Huma le regarda faire un pas, puis, la voix forte, vivement, il dit « Pas adieu, tatoué, pas adieu. Nous sommes de revue. Pas adieu, mais au revoir. » En même temps, ayant l'air d'esquisser un pas pour saluer, comme le faisait tout à l'heure le répétiteur de province avec ses allures antiques et solennelles, il se pencha en avant. Il demeura un instant dans cette position, fléchissant sur les jambes. Le banquier partit d'un grand éclat de rire. « Non, non, ce n'est pas un au revoir. Tu plaisantes, Martin Huma. C'est bien adieu que je te dis. Adieu, mon cher. » Il fit un nouveau pas pour sortir. Mais avant qu'il eût atteint la porte, Martin Huma s'était tout à coup détendu, comme mu par un ressort d'acier. Il avait bondi, et il était tombé sur le banquier. Les deux hommes roulèrent à terre encore. Mais le banquier, surpris par cette attaque imprévue à laquelle, certes, il ne s'attendait pas, fut projeté sur le sol, sans avoir eu le temps de se mettre en état de défense. Martin Huma lui prit les bras à rebours, les tira en arrière, lui mit les genoux sur le cou. Il réunit les deux bras du banquier sous son bras gauche, les rejoignit de la main droite, entoura les mains du bagnard d'une corde légère, souple, mais dure et incassable. Le banquier poussait des râles de colère impuissante. Il donnait de furieux coups de pied en l'air, cherchant à atteindre Martin Huma, sans que ses bonds furieux puissent déranger le roi des détectives dans sa rude besogne, sans que les coups de pied arrivassent à le toucher. Lorsque Martin Huma eut bien serré les mains de M. de Krapps et mit le bagnard dans l'impossibilité de tenter une défense quelconque, il lui passa sur la figure un mouchoir dont il forma un bâillon et l'attacha derrière la tête. Il traîna alors le banquier au milieu du bureau, fit un nouveau lien avec la même corde et attacha les deux pieds ensemble, les rejoignit au poignet en tirant fortement. Le banquier se trouva ainsi sur le sol, rendu muet et semblable à un animal réduit à l'impuissance qui se débattait dans les dernières manifestations d'un combat pour la vie où il était vaincu. Martin Huma demeura alors à genoux près du tatoué. « Tu vois bien qu'il ne faut jamais me dire adieu, » dit-il. « Mais que faire de cet homme? Comment le sortir d'ici ?» Tout en ayant fait un prisonnier, Martin Huma était lui aussi prisonnier. Passé par le bureau, il n'y fallait pas songer. Une seule issue se montrait, la croisée. « Oui, c'est par là seulement que je dois fuir. » Il se dirigea vers la croisée et l'ouvrit. Elle donnait sur le boulevard Saint-Michel. Là était le salut. Mais la croisée était garnie de gros barreaux de fer. Martin Huma examina ces barreaux. Il remarqua que chacun d'eux n'était pas scellé comme d'habitude dans la pierre et que des crampons le maintenaient sur le rebord même de la croisée. Ces crampons se trouvaient tous en dehors. Il n'y en avait pas en dedans. L'explication était simple. Les crampons placés en dehors de la fenêtre ne permettaient pas d'attirer le cadre à soi en étant dehors, et la fenêtre fermée empêchait de faire jouer le cadre de fer. En le poussant en dedans, vers l'intérieur de la pièce, ainsi, la croisée restait absolument fermée par ses barreaux de fer, et les fractions venant du dehors étaient impossibles. Mais, en ouvrant la fenêtre et en tirant à soi le cadre de fer, les crampons ne le retenaient pas, et les barreaux s'ouvraient comme un basistas. Ils dégageaient la fenêtre et permettaient, en cas de surprise, aux gens se trouvant dans le bureau du banquier, de sauter dans la rue par cette croisée qui, précisément, parce qu'on la croyait gardée par ses barreaux, ne serait pas surveillée. Ainsi, ce qui devait être une garde favorisait la fuite. Martin Huma tira donc à lui les barreaux de fer. Ils jouèrent, montrant un espace libre assez grand pour qu'un homme puisse s'échapper. Alors, Martin Huma se mit à rire et dit « C'est très bien compris. Le tatoué est vraiment fort. » Puis il revint au banquier, le tira sur le sol, l'approcha de la croisée, se baissa pour le prendre, le hisser et le jeter dehors. À ce moment, il poussa un cri de douleur. Il se retourna vivement et vit en face de lui le caissier, jeté tout à l'heure sur le sol, évanoui, qui venait de lui plonger dans le dos un poignard hindou servant de coupe-papier et se trouvant sur le bureau du banquier. En même temps, l'homme dit « Allons, Martin Numa, apprenez une bonne fois que le tatoué a des hommes avec lui, qui valent bien le Prosper et le Philippe du roi des détectives. » À ce moment, la porte du bureau s'ouvrit toute grande. Tous les employés de la banque, devant lesquels M. Thomas tout à l'heure était passé, entrèrent en hurlant, en criant, affolés. Il y eut une bataille, une bousculade terrible. On les vit tomber les uns sur les autres. Le garçon de bureau faisait aller ses poings formidables et tapait, défendant l'entrée de la pièce. Mais trois ou quatre gaillards bien déterminés venaient de pénétrer dans le bureau et ce fut un combat terrible qui se livra ici. On entendit une voix crier « Chef, du courage, c'est nous !»« Prosper ? Philippe ?» cria Martin Numa, ayant reconnu ses hommes. « Hardi, hardi !» Lui-même alors rentra dans la bataille, et malgré sa blessure, malgré sa faiblesse, malgré son épuisement, il se jeta dans la mêlée furieuse.